Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, alors nous sommes avec Naïssam Jalal au téléphone. Bonjour Naïssam Jalal.
Bonjour.
Voilà, c'est parce que vous êtes au festival Coa Jazz prochainement, hein. Ce sera le 5 novembre pour un concert. Alors avec une de vos formations, peut-être nous en parler un petit peu, parce que vous participez à plusieurs formations, vous avez rassemblé plusieurs formations. Là ce sera avec un trio que vous avez baptisé Quest of the Invisible, mais il y a aussi Healing Rituals, Landscape of Eternity, Rhythms of Resistance, pour ne prendre que les plus récentes. Quelles sont les spécificités de ces différentes formations, et plus particulièrement de Quest of the Invisible?
Alors, Quest of the Invisible, c'est un trio que j'ai fondé en 2017, avec un album qui sort en 2019. Et c'est un répertoire que j'ai écrit pour explorer vraiment le lien entre la musique et la spiritualité autour de la question de la transe et du silence. Et donc, l'idée, c'est vraiment que, avant ça, donc j'avais fondé le quintet Rhythms of Resistance, où on était vraiment sur la question de la résistance et de comment on peut, en fait, exprimer ce qui nous traverse politiquement et socialement dans la musique, et peut-être déjà se soulager un peu de toute la colère, et puis peut-être aussi, d'une certaine manière, agir sur le monde. Et en fait, c'est vrai qu'à un moment donné de ce chemin que j'avais pris, ça a été très douloureux pour moi de voir que la révolution syrienne ou la question de la libération de la Palestine, c'était des questions qui m'étaient très chères et que je voyais les peuples se faire massacrer et qu'ils étaient complètement abandonnés. Et que malgré tout ce que je pouvais faire, malgré tout mon engagement, malgré l'organisation de manifestations, l'organisation d'événements politiques, le travail qu'on pouvait faire sur l'opinion publique aussi pour essayer d'influencer le rapport à ces questions-là, en fait, il se passait rien. Et ça a été très, très douloureux pour moi de voir qu'on laissait, en fait, les gens mourir. Et du coup, j'ai essayé de trouver un moyen dans ma musique de non plus être dans la résistance seulement, mais être aussi dans la résilience, de comment est-ce que on arrive à survivre dans ce monde et dans toute cette violence et dans toute cette injustice. Et donc, c'est vrai que la question de la spiritualité, la question du soin, la question de la guérison aussi, c'est une question qui a commencé en fait à émerger en moi à cette époque-là. Mmh. Et donc, Quest of the Invisible, c'est un peu la première étape de ce qui est venu ensuite avec les rituels de guérison, Healing Rituals, ou avec mon dernier projet autour des paysages de l'Inde du Nord, Landscapes of Eternity. Et l'idée, c'est vraiment d'explorer le lien entre la musique et la spiritualité parce que c'est un endroit de refuge, parce que c'est un endroit de mieux-être, parce que c'est un endroit de protection et de soins, mais aussi parce qu'on est dans un monde où en fait la spiritualité, elle est absente absolument, puisqu'on est dans un monde capitaliste où la seule valeur qu'on reconnaisse une certaine légitimité, c'est le matérialisme. Mmh. Et en fait, c'est aussi une forme pour moi de résistance et de refus en fait de cette valeur unique qu'est le matérialisme, et de dire non, nous sommes pas que des corps, nous sommes aussi des esprits, nous sommes aussi des êtres spirituels, des êtres d'amour, des êtres qui ont besoin d'être soignés, d'être guéris, d'être aimés, voilà. Et donc, en fait, on a besoin de la beauté, c'est pas superflu, c'est pas accessoire, c'est pas non essentiel comme on a pu voir ça pendant le Covid. Il n'y a pas que les besoins du corps qui sont essentiels, il y a aussi les besoins de l'esprit. Et donc, c'est vrai que Quest of the Invisible, la quête de l'invisible, c'était vraiment la première étape musicale pour moi de cette réflexion autour de la spiritualité et de la place qu'elle doit avoir dans nos vies.
Oui, alors c'est quand je vous écoute, ça m'avait pas frappé en regardant la, je voyais bien l'inflexion dans la suite des albums, hein, de cette position de résistance à une position de résilience, hein, comme vous dites. Mais en vous entendant, je me dis, mais ça me rappelle beaucoup la démarche d'un John Coltrane, qui est, on est à une autre époque, hein, mais voilà, il y avait le côté free jazz à l'annonce du free jazz, je veux dire, dans un premier temps, et puis ça a été Love Supreme, ça a été cette part, ces derniers albums très méditatifs, très spirituels.
Bien sûr, ouais, transcendantaux même, on pourrait dire.
Oui, tout à fait. Alors, je vois, là, vous avez des tournées, vous êtes en pleine tournée. Hein, là, au moment où on enregistre, dans 2 jours, vous êtes en Italie, et puis il y aura aussi le Sénégal un peu plus tard, et puis vous sillonnez la France entre les deux, il y aura aussi l'Allemagne. Il y a un côté nomade, j'ai envie de dire, dans ce que vous vivez en ce moment. Hein, et en même temps, je me dis, mais quand je regarde l'ensemble de votre carrière, vos trajets, je me dis, cette dimension de nomadisme, elle me paraît fondamentale dans votre vie, mais aussi dans votre musique.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, bon, c'est vrai que j'ai une vie beaucoup plus nomade que ça a pu l'être. En tout cas, voilà, plus j'ai de concerts, plus je suis nomade. Mais c'est une autre forme de nomadisme. C'est-à-dire que plus jeune, donc moi j'ai grandi en France. J'ai pas beaucoup bougé quand j'étais petite. Hein. J'avais une vie comme la plupart des gens. J'allais à l'école, au conservatoire. Voilà, j'étais assez sédentaire en fait. Et c'est vrai que dans toute ma vingtaine, entre 20 et 30 ans, ou même entre 18 ans et 30 ans, j'ai été beaucoup à l'étranger. Mais c'était plus long. Je passais beaucoup plus de temps à l'étranger que maintenant. C'est-à-dire que aujourd'hui, effectivement, je suis nomade. Mais quand je vais, par exemple, en Allemagne, je passe 48 heures en Allemagne. Alors là, par exemple, au Sénégal, je me suis arrangée pour pouvoir rester un peu plus longtemps. Parce que à chaque fois que je vais quand même très loin, j'essaye vraiment que le déplacement aussi fasse sens et qu'il apporte quelque chose à ma vie, de rencontrer l'autre et de rencontrer aussi un peu au moins une culture et un lieu, et voilà, beaucoup plus qu'en 48 heures, quoi. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai vécu un peu en Syrie quelques mois, donc quand même 4 mois, puis ensuite j'ai vécu au Caire pendant 3 ans, après j'ai vécu entre Paris et Beyrouth pendant 7 ans. Et donc c'est vrai que ce rapport à l'altérité, ce rapport à d'autres endroits du monde, où en fait on fait de lieux qui sont loin et qui sont pas nos territoires de naissance, on en fait des espaces de chez soi, plus ou moins, autant que possible. Et donc ce rapport à l'altérité, c'est sûr qu'il a beaucoup marqué ma musique. Mais je pense que déjà au-delà de ça, ce qui m'a donné envie d'être nomade aussi, qui m'a donné envie d'aller à la rencontre de l'autre, c'est le fait que je sois le fruit de l'exil et que je sois le fruit de l'immigration, que je sois une fille d'immigrée en France, que parce que je suis arabe et que je suis pas, je sais pas moi, japonaise ou allemande, où ça serait peut-être un peu moins pire, je suis arabe et on a encore aujourd'hui en France beaucoup, 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 beaucoup de stéréotypes, c'est le moins qu'on puisse dire, sur l'identité arabe. Et donc, j'ai de toute évidence dû faire face à un racisme sournois et presque muet, parfois en tout cas, de la société dans laquelle j'ai grandi.
Oui.
Donc c'est vrai que se sentir étranger dans une société où nous on a l'impression d'en faire partie, c'est quelque chose qui peut pousser quelqu'un à aller vers l'autre, à explorer, à être curieux. Je pense que le fait que je sois née en tant que fille d'immigrée en France et fille d'arabe en France, ça a un grand rôle à jouer dans mon chemin à la fois identitaire, intime et musical, de toute évidence.